RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. C'est marrant, il y a tellement de brouillard que je vous vois pas. Ah oui, c'est bizarre ça. Hein, ouvrez vos fenêtres là que je puisse vous voir. Hein, je vous vois à peine. Bon, mais je sais que vous êtes là. Bon, c'est le principal. Alors, j'ai dans les mains là le dernier numéro des Hydropathes. Et il y a un monsieur qui s'appelle Alain Leprest. Un grand poète, malheureusement, qui est décédé. Et il a fait un poème qui s'appelle « Le jardin du poète ». Un poète qui parle de poète, c'est normal. Hein, bon. Un flic qui parle de poète, là, c'est pas normal. Hein, voilà. Chez le jardin du poète, la brouette était déjà prête. Pour aller chercher le prêtre, qui d'ailleurs ne viendra pas, la pendule dit « tant pis ». Une vache décatie vient pour lui tendre son pis et partager son repas. Râteau, hérisson, poilu, poireau, carotte, caca-poupée, Francine, Jacques. C'est le jardin du poète, la marchande d'allumettes, brûlante sous sa jupette, arrose un plomb de tabac. C'est pas normal, puisque avec le tabac, il faut l'allumer. Hein, bon. Arrose un plan de tabac, le soleil n'est pas brillant, mais la vache, en s'asseyant son gros cul sur le pliant, dit « j'en ferai pas un plat ». Binette, serfouette, boîte aux lettres, le chat tigré, souris en plastique, pissenlit. C'est le jardin du poète, la grosse vache Paulette allume une cigarette et se rajuste les bas. La soirée fut formidable. Elle débarrasse à la table, la bête gagna l'étable en trémoussant ses appâts. Pivoine, hortensia, avoine, purée de pois, mégot, artichaut, un raton laveur, et la mère. Bon, pas la belle-mère, hein. C'est le jardin du poète, rouille une roue de brouette, des piètres analphabètes, sont peu de choses ici-bas. Une vache dit tant mieux, fermant doucement les yeux, en couchant son cul gracieux sous son cabanon de bois. Voilà. Bon, c'est pas mal hein, pour un jardin de poète. Hein. Moi, je trouve. D'ailleurs, moi, dans mon jardin, il n'y a pas tout ça. Hein. Ah non. Alors, en ce moment, il n'y a que des parpaings. Des parpaings et du ciment dans mon jardin. Parce qu'on construit, oui. On va construire la maison du poète. Voilà. Bon, allez. Alors, tiens, encore une histoire de poète. Avec René-François Doumins. Pourquoi vouloir poétiser ? Faut jamais poétiser plus haut que son cul. Non, ça c'est moi, c'est de moi, c'est pas de lui. Pourquoi vouloir poétiser ? Tout n'est pas beau, qui n'est pas vrai. Plaisir du mirage insensé, grandeur du sucre et de l'ivraie. C'est une erreur, parfois erreur qui fait lumière, de forcer les parfums d'une essence éphémère. Ceux-là dont les accents sont les plus envolés, ce ne sont pas ceux qui vont aux futures années. L'art n'est pas emprunté, il plonge au cœur du fait. Mais le fait est immense, aux accords infinis, et le chercheur jamais n'aura fini d'en ordonner la nuance et l'effet. Le fait, c'est le réel, l'illusion, l'astre et l'âme. Tout ce qu'on voit, le mieux, le moi, le noir, le fleur, esprit, désir et douleur, infâme, qui plaît, le bien qu'on blâme, et les émois le soir. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, ce matin, j'ai rencontré un hérisson, figurez-vous. Ouais. Et je crois qu'il est venu se loger dans ma gorge. Bon, je vais l'attirer avec du lait. Il paraît qu'ils aiment beaucoup le lait. Un peu comme le ver solitaire. Vous voyez ? Vous asseyez les fesses sur un bol de lait, et le ver solitaire sort par le trou de balle, et il va boire le lait. Et vous en profitez pour tirer dessus. Bon, ça n'a rien à voir avec le poème, mais c'était simplement pour vous expliquer comment il faut faire. Hein, bon. Le poème est au cœur de la chose. Il s'exprime tout net, tout pur, comme un jour rose. Qui paraît sur les champs qu'il repose, il éclaire et nuance sa langue s'impose. Il parle son langage, et qui sait le comprendre, est poète et son vers parle fort, sans factice. Or, la langue est bornée. le fait est éternel, et le mot évolue. Et si l'homme périsse pour saisir constamment quelques horizons nouvelles, moi j'aurais dit nouveau, mais bon, oui, là, quelques horizons au singulier, donc c'est normal que nouvelles soient au singulier, hein, au masculin plutôt. Hein. Bon, je ne vais pas vous refaire toute la grammaire quand même, hein. Si vous ne savez pas le lire, tant pis pour vous. Hein. Le poète est celui qui cherche, et il sait apprendre. Et son poème sort comme le cri des bois, sans peine, ou comme l'élan clair du cœur sensible, ardent, ou pareil au labeur creusant les lois. Il est parfois tendu vers une cible, mais toujours naturel, en épousant la vague, et moi, ciel, océan, pensée, déferlant ces vagues. Ça fut écrit en février 1941. Donc c'est pas nouveau, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Et donc ce monsieur s'appelle René-François Doumins. Rien à voir avec le transporteur qui est à Périgueux, à Boulazac, hein. Non, non, c'est pas les mêmes. Non, mais ça m'étonnerait que Doumins sache faire des poèmes comme ça. Hein. Ah non, là, j'y croirais pas, là. Hein. Non, non. Sinon, j'inviterai à mon émission. Hein. Vous le voyez venir avec son espèce de grue, là, de grue ou ses gros camions, hein. D'abord, on n'a pas la place pour le garer, ici, hein. Nous, ici, il n'y a que les vélos qui arrivent. Hein. Et encore, il y en a un, il n'est pas arrivé ce matin. Il a raté son métro, Simon. Non. Il a voulu venir au métro, mais il y avait les agriculteurs qui ont bloqué la rame. Bon, allez, si on chantait un peu, là. Tiens, Barbara, John Parker Lee.
Il a s'appelé John Parker Lee. John Parker Lee. John Parker Lee, son paradis, c'était de voyager sa vie. Il était toujours en partance. Il sautait dans ses trains de nuit, de galaxie en galaxie, puis revenait en fulgurance. Nous donner à voir, nous donner à prendre, je ne peux rien dire de plus de cet homme-là. Il était ni mieux, ni plus mal, il était différent, c'est tout. John Parker, le magnifique, venait des plaines de l'Iguana. Brouillard ses yeux, brouillard sa voix, de la brume au bout de ses doigts. Il y a comme ça dans la vie, de merveilleux passagers qui croisent nos existences et nous font l'instant de beauté où il nous semble qu'on dialogue avec des anges. Il y a comme ça dans la vie, poussière de soie, brillant d'étoiles, papillon de nuit, de merveilleux passagers qui jouent d'étranges musiques, qui nous tanguent le cœur et l'âme. John, 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 John Parker, l'homme qui dansait sa vie de train de nuit en train de nuit, de galaxie en galaxie. Un jour il n'est pas revenu, mais il a laissé dans nos vies ses récits aux couleurs d'ambre, et l'on chevauche nos rêves pour le rejoindre dans son univers. Et l'on saute dans ses trains de nuit, et l'on roule en super express de galaxie en galaxie, et l'on dialogue avec les anges. Tu as basculé nos vies, John. Quelle était belle ta différence, papillon de soie, papillon de nuit, John. Vivre sa vie comme on la danse. Il s'appelait John Parker Lee. John Parker Lee. Il voyage dans ses trains de nuit, ailleurs, sur d'autres galaxies. John, 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 John Parker Lee, l'homme qui dansait sa vie de galaxie en galaxie, le magnifique John. Il s'appelait John Parker Lee, venait des plaines de l'Iguana, brouillard ses yeux, brouillard sa voix. John John Parker, John Parker, John, John Parker Lee.
Et voilà. Barbara, la regrettée Barbara. Alors là, j'ai un vieux fascicule. Il n'y a pas de date. Bon, mais ça date de loin, parce que c'est 20 monologues pour des jeunes gens. Et alors, bon, je vais vous dire, bon, il n'y a pas du tout de... Alors, ça faisait partie des archives de Jean Boussuge. Alors, le papier jaune, c'était encore de l'imprimerie typographique. Vous voyez, on voit le... Comment on appelle ça? Nous, en termes d'imprimerie, on appelle ça le foulage. C'est-à-dire que la lettre, quand elle s'imprime, elle fait une marque derrière, comme un petit relief, vous voyez, hein? Donc c'est vieux, hein? Moi je me souviens d'avoir imprimé ce genre de technique, j'avais 14 ans. Et là, on a une fable qui était normalement de La Fontaine, Le corbeau et le renard. Mais la fable est dite par un Anglais. Alors je vais essayer de vous imiter les Anglais, enfin un Anglais qui parle le français, hein? Bon, quand même. Alors, Mester Corbeau, là-haut perché sur un bouleau, tenait dans son bouche un fromage qui venait justement de chipper au village. Il rigolait, le petit pit-pocket, en disant « Mon dîner sera very chouette ». Mais l'odeur du fromage était beaucoup grande. Il avait attiré le renard, fort gourmand, qui pensait « Cette corbeau doit être pas malin, nous allons voir. » Il fait son révérence avec la miraculeuse tout plein. L'autre avait pas sa méfiance. « Wow, good morning, cher master, que vous êtes joli, ma parole d'honneur. Quelle tournure, quelle figure. Vous avez encore plus du chic, je jurerais que notre Édouard, le plus chic des Anglais, si votre langage est aussi beau, que votre individu, vous êtes une merveille, et vous serez avoir une voix sans pareille, comme tout monsieur Caruso. » Caruso, c'était un chanteur, un ténor. Hein. À ces mots, le petit saute, il louche d'orgueil, il fait la roue, il fait le joli cœur, et pour montrer qu'il est à la hauteur de Caruso, vite, il ouvre la bouche. Et son fromage, il tombe dans le bec du renard. Le renard, il rigolait comme une baleine et disait, frottant sa bedaine, « Cette leçon te servira plus tard, sans doute. » Le flatteur, il boulotte au frais de qui l'écoute et retient bien ceci. « Mets ça dans ta boussole, à toi, stupide croûte. Au revoir et merci. » Le corbeau, s'arrachant les cheveux de colère, jura, mais un peu tard, de plus se laisser faire. Voilà. Pas mal, hein? Alors, il y a là, bon, le lièvre et la tortue, bon, là aussi, c'est dit par un Anglais, bon, on va pas tous les dire. Le mouchoir de Jean, bon, il y a... C'est marrant, mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de date, mais c'est très vieux. Ça remonte dans les années 30, ou même plus que ça. Il faudrait que je regarde sur Internet, parce que si j'ai le titre, peut-être que j'aurai la date, hein? Vous voyez, par exemple, encore La Grenouille et le Bœuf, fable dite par un Anglais. Mais ça, je vous le dirai une autre fois, hein? Bon, on va pas tout faire d'un seul coup, hein? Alors, ah oui. J'ai un petit texte pas mal de Léo Ferré, figurez-vous. Alors il dit, à l'école de la poésie, on n'apprend pas plus. On n'apprend pas, plutôt on se bat. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il faut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rudebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur des tombes. Voilà. Et c'est vrai. Mozart, vous rendez compte, hein? Il meurt, il n'y a personne à son enterrement à part un chien. Incroyable, hein? Alors des fantômes, oui, ça, des fantômes, il devait certainement y en avoir. Hein, ça, c'est évident. Bon, allez, tiens, Patrick Hoche. Alors lui, il parle de arbitre et décadence. Ouais, c'est ça. Allons, on y va.
Je suis pas l'arbitre des élégances, mais si demain, toi, tu me balances, pour moi, plus rien n'aura d'importance. si demain toi tu me balances, tout ça n'aura plus d'importance. Le cœur brisé sans conséquence, je m'en irai, je prendrai de la distance. Entre nous si tu me balances, je m'en mettrai en prenant mes distances. Si demain tu me balances. Alors pas d'appel la nuit en urgence. L'arbitre des élégances, mais si mon amour tu me balances, je m'en irai, je changerai d'existence. Mais si mon amour tu me balances, je m'en irai, je prendrai de la distance. Alors plus d'appels la nuit en urgence. Pas d'ambulance, juste du silence. C'est ça l'élégance. Non, je suis pas l'arbitre des élégances. Mais si demain toi tu me balances, qui t'empoisonnera l'existence. Mais si mon amour tu me balances, je t'empoisonnerai plus l'existence. C'est l'élégance. C'est l'élégance.
Non. Et voilà. Alors, notre ami Hoche est un périgourdin de Périgueux. Voilà, donc il œuvre aussi sur place, il fait des concerts. Alors, quand vous voyez à l'affiche un concert de Hoche, hein, faut y aller parce que c'est super bien. Hein. Alors là, j'ai mon petit journal dans les mains et je vois qu'il y a un poème, on va dire, bon, c'est peut-être pas tout à fait un poème, mais ça y ressemble, d'Alain Bernard. Hein. Bon, Alain Bernard, on ne va pas vous faire un dessin, vous le connaissez. Hein. C'est le journaliste le plus connu, le plus célèbre inconnu d'ailleurs. Et il a fait un texte sur les municipales de Périgueux, bien sûr, chez les dinosaures. Ouais, parce qu'il fut un temps, et je vais vous le dire pourquoi. Je ne sais si vous le savez, mais il existe aussi des élections chez nos ancêtres, les dinosaures. C'est ainsi qu'à Périgueux, sur ce qu'allait devenir un jour Vézone, les Auditorus Terus ont décidé de maintenir leur maire sortant, Antoine Audon, face aux attaques peu affectueuses des Palemstorus, des Moirans d'Europe, des Rouquiers Rutori et des Labailles Torinos. Voilà, hein, donc vous les connaissez, il n'y a pas besoin de vous... Hein. Alors après, bon, chacun a des écailles différentes sur le dos, hein, bien sûr. C'est pas Alain Bernard qui le dit, c'est moi, parce que je les connaissais, tous ces dinosaures-là. Je les connais encore, d'ailleurs, ces dinosaures. Il y a même la dernière, elle est passée. Première dinosaure sur Périgueux. Labailles Torinorus, voilà. Hein. Dans une petite ville comme celle de Pétrocor, les candidats se connaissent, et au hasard des vernissages, d'embouteillages ou de courses au supermarché, ils se manifestent de la sympathie, se prêtent les Kleenex ou les jetons de caddie. Il existe ici comme ailleurs toute une hypocrisie nécessaire à la vie sociale. Les dinosaures sont prêts à tous les compromis pour garder leur frêle démocratie au quotidien. Ils ont beau chercher à imaginer par mille astuces comment l'autre va voter, ils restent discrets et fraternels. Le go Ernest, il n'y en a pas fait d'exception. Le go Ernest qui, en faisant éclater sa culotte après un gueuleton, a libéré de ses entrailles des kilos de tracts. De nos jours, on parle de flyers. L'un de ses adversaires déclarait, il a beau gueuler à la ronde, qu'on lui avait bourré le froc à son insu, rien n'y fit. Il fut obligé d'avouer qu'il était un agent double, et même vu sa taille, triple. Il en existe d'autres dinosaures qui rêvent de remplir les urnes jusqu'à la gueule, avec de faux bulletins de vote en faveur de leurs favoris. Certains réussissent de façon spectaculaire et sont alors sacrés, escrocs, électoraux, patentés. Enfin, les Sesmorus, j'espère qu'ils ne parlent pas de moi, achètent les votants par des gueuletons composés de plats de lentilles passés au goudron pour faire croire à du caviar. Là, on est dans la tromperie électorale qui dénonce les proto-spogniatus dans des discours politiques d'une rare véhémence, je vais y arriver, au nom de leurs mains propres. Dans l'isoloir, enfin, certains diplodocus allument les petites lumières clignotantes qui possèdent au coin de l'œil afin qu'aucun électeur indélicat ne profite de l'obscurité pour fouiller indûment les bulletins. Voilà, ça c'est du Alain Bernard dans toute sa splendeur. Et alors il a fait des rubriques comme ça sur les dinosaures, il y en a un paquet, hein, je peux vous dire que... Ouais, il y aurait de quoi faire un livre, rien qu'avec ces rubriques. Hein. Et alors, bon, il nous reste combien de temps là? 10 minutes? 8 minutes? Ah oui, parce que si tu retournes tes mains, tu enlèves les pouces, voilà. Ah oui, parce que si tu fais comme ça... Ah oui, vous avez vu, hein? Vous avez vu comment il a fait? Bon, alors il me reste 8 minutes avec vous. Bon, eh bien écoutez, on a quoi de le lire quand même, hein? Bon, allez. Ah tiens, ben, ça tombe bien, le massacre des éléphants roses. Ah ouais, ça fut écrit en 2006. Les chrysanthèmes de la Toussaint s'étaient laissés mourir prématurément pour ne pas être piétinés le 8 janvier 2006 par des éléphants partis en vue de faire une jonction à Jarnac. Alors si vous avez bien compris, vous savez qu'il y avait une tradition que les éléphants roses allaient au cimetière de Jarnac où était enterré Mitterrand. Voilà. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Les couloirs migratoires de la France réservés aux éléphants roses convergeaient vers une concentration quasi décennale. Le petit cimetière de Jarnac, du coup, devenait la Mecque des pachydermes, mal dans leur peau à la vue des élections de 2007. Les plates-bandes fleuries du petit cimetière avaient été massacrées par les éléphants roses qui voulaient être le mieux placés, tellement visibles sur les écrans de télévision, sans se préoccuper des fleurs fatiguées de janvier. L'arrivée des flamants roses, des perroquets verts et des banlieusards rouges, quoique encore un peu gris par la déconfiture des dernières échéances, provoqua la panique dans le cimetière dit de campagne, alors qu'on attendait que quelques dinosaures roses bonbons attardés. Et restait fidèle au principe du silence qui se demandait que du bruit autour de lui. Le conservateur du cimetière, en espérant être encore là en 2016, jurait que le reste des pachydermes existants mettrait des charentaises à carreaux à l'entrée du cimetière afin d'en préserver l'ISO 1996, attribué et classé exceptionnellement par la DDE. La DDE, encore endormie après que l'histoire de Mazarine. Eh oui. L'avenir nous dira si la Corrèze copiera sur cette bonne ville de Jarnac pour y introduire un reliquat d'éléphant bleu qui se revendique d'un général à 2 étoiles depuis longtemps à la retraite. Et moi, pendant ce temps-là, je reste observateur privilégié de ces migrations volontairement dirigées vers le pouvoir de pouvoir obtenir un pouvoir. Voilà. Eh bien, figurez-vous que j'aurais pu prendre ce poème comme slogan, les éléphants rouges. Roses, pardon. Hein. Eh ben non, ils n'en ont pas voulu. Tout ça parce que je me moquais d'eux. Hein. Ben, y avait un paquet, hein, y avait... Ah, vous les auriez vus. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Et alors, c'est comme s'ils étaient roses. Ils avaient mis une pancarte, une petite truc avec leur nom, pour qu'on les reconnaisse, parce que sinon, ils étaient tous pareils. Hein. Tous roses, ouais. Et c'est beau, hein, les éléphants roses. Mais alors, quand vous voyez... une troupe d'éléphants roses arrivés dans un cimetière. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Oh! Et puis là, il y a une tombe qui les attend, avec un monsieur dedans. Et ils se mettent tous autour, là. Tous autour. Et avec leur trompe. Ouh, Mitterrand! Ouh, la France tranquille! Et oui, et oui! C'était le slogan, ça. Non, le slogan, c'était la, de Mitterrand, c'était en 81, la force tranquille, c'était, voilà. Et c'est grâce à ça. Et c'est un grand publicitaire qui a trouvé ça. Et depuis ben, il est devenu le publicitaire de Mitterrand. Et il s'est fait des couilles en or. Il a gagné de l'argent. Bon, allez, bon, on va pas. Hein. Alors, il me reste combien, là? Encore 4. Je n'ai que 4 minutes. Oh, c'est bien, ça. Alors, tiens. Mac Nab. Les fœtus. Alors, en ce moment, ça barde aux États-Unis. Hein. Ils veulent pas d'avortement. Hein. Ah, ils veulent pas. Alors qu'il y a eu je ne sais pas combien de milliers de femmes violées et enceintes. Et elles n'ont pas le droit de faire partir le fœtus. Elles n'ont pas le droit de se faire avorter. C'est une honte. Alors, on en voit de petits, de grands, de semblables, de différents, au fond des bocaux transparents. Les uns ont des figures douces, venues au monde sans secousse. Sur leur ventre, ils joignent les pouces. D'autres lèvent les yeux en l'air avec un regard assez fier pour des gens qui n'y voient pas clair. Enfin, d'autres, fendus aux tierces, semble craindre qu'on ne renverse l'océan d'alcool qui les berce. Mais que leur bouche ait un rictus, que leurs bras soient droits ou tordus, comme ils sont mignons, ces fœtus, quand leur frêle corps se balance dans une douce somnolence, dans un petit air d'érigence. On remarque aussi que leur nez, à l'intempérance à donner, sont quelquefois enluminés, privés d'amour, privés de gloire. Les fœtus sont comme Grégoire, ils passent tout le temps à boire. Quand on porte un toast amical, chacun frappe sur son bocal. Et ça fait un bruit musical, en contemplant leur face inerte. Un jour, j'ai fait la découverte qu'ils avaient la bouche entrouverte, fœtus de gueux, fœtus de roi, tous sont soumis à cette loi, baillent sans savoir pourquoi. Gentil fœtus, ah, que vous êtes heureux d'avoir rangé vos têtes loin de nos humaines tempêtes. Heureux, sans vice ni vertu, d'indifférence revêtu, votre cœur n'a jamais battu, et vous seul, vous savez peut-être, c'est que si c'est le suprême bien-être que d'être mort avant de naître. Oh, c'est dur, là. Oh, c'est dur. Oh, bien. Alors, Mac Nab, c'était un hydropathe des années 1879. Hein. Donc, il nous ressemble beaucoup, hein. En plus, je trouve qu'il a une gueule d'avoir du pinard. Comme nous, d'ailleurs, comme nous. Ah, vous ne pouvez pas le voir à la radio, mais j'ai le nez rouge, moi. Hein. Donc, vous voyez. Et, mais ce n'est pas à cause du vin rouge. Ben non, parce que je ne bois que du rosé. Bon, allez. Je crois qu'on va... 2 minutes. Alors, 2 minutes, je vais être obligé d'improviser. Alors, mamie, j'ai bien envie de changer de manie, là. Parce que toi, je trouve que tes frites sont moins bonnes qu'avant. Tu vieillis, hein, mamie. Il va falloir te remonter un petit peu, là. Hein. Non, là. Alors, fais gaffe. Si la prochaine fois, les frites sont dégueulasses, je te vire et je vais choisir une autre mamie. Hein. Fais attention à toi. Hein. Je sais que tu voudrais que je reste avec toi. Mais alors, applique-toi à faire des meilleures frites. Va voir les Belges pour savoir comment il faut bien les faire. Bon. Mais va voir les Wallons, hein, pas les Flamands. Parce que les Flamands, ils font des frites hollandaises ou allemandes. Et tu sais que les Allemands, ils ne savent pas faire les frites. Ils bouffent les pommes de terre tout à l'eau. Et pareil, ça remplace le pain chez eux. Vous vous rendez compte? Mais comment tu peux beurrer une pomme de terre comme un morceau de pain? Alors au petit déjeuner, ils trempent la pomme de terre dans le café ou dans le lait? Mais c'est incroyable, ça! Oh, moi, je ne vais pas aller en Allemagne pour manger là-bas. Hein. Non, non. Et il nous reste encore 1 minute. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire pendant 1 minute, hein? Bon, je vais vous dire que je vous aime, hein, que vous êtes toutes belles, vous êtes tous beaux. Hein. Les mamies, ça commence à vieillir, mais elles restent encore belles, hein, la plupart du temps. Regardez, moi, j'ai 79 ans, vous verriez la belle gueule que j'ai. Oh, la preuve, c'est que l'opératrice, elle sourit en me voyant. Elle me fait des grands sourires. Bon, je crois que je vais partir avec elle tout à l'heure. Bon, allez, je vous dis au revoir. Hein, c'est promis.